Merci Daniel pour cette intro. Merci d'être là. C'est vrai que nos prédications, parfois, vont peut-être vous toucher. Mais la mienne était prête il y a 3 semaines. Donc si vous êtes touché, c'est pas ma faute. Il y a 3 semaines, effectivement, j'abordais avec vous l'épître de Jude. Un des plus petits livres de la Bible, mais ô combien riche en enseignement. Et nous avons vu que cette lettre s'adressait aux chrétiens de toute époque, de tout du monde entier, et c'est pourquoi j'ai donné ce titre, une lettre pour notre temps. Est-ce qu'on m'entend bien? Ah, déjà lui, je l'ai coupé, il souffle plus. On entend le souffle de l'esprit plutôt. Et cette lettre pour notre temps, et on avait partagé sur les 2 premiers versets. Alors j'ai fait la même chose que la dernière fois, j'ai mis les 7 premiers versets sur ma feuille, ma première feuille, et j'ai supprimé les 3 derniers, donc on ne verra que jusqu'au verset 4. Je vous propose de lire ces 4 versets de Jude, l'épître de Jude, les 4 premiers versets. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Et je vais accompagner cette lecture par une deuxième lecture dans l'Évangile de Matthieu, Matthieu 22, l'Évangile de Matthieu 22. Les 14 premiers versets. Jésus, prenant la parole, utilisa de nouveau des paraboles pour leur parler. Il leur dit, je lis dans la version nouvelle, le français courant. Voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Un roi organisa une fête pour le mariage de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler les invités pour ce mariage, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya d'autres serviteurs avec cet ordre. « Dites aux invités, mon repas est préparé maintenant. Mes taureaux et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez au mariage. » Mais les invités ne s'en soucièrent pas et s'en allèrent à leurs affaires, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres saisirent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses soldats tuer ses assassins et incendier leur ville. Puis il dit à ses serviteurs, « La fête de mariage est prête, mais ceux qui avaient été invités ne le méritaient pas. Allez donc dans les principales rues et invitez à la fête toutes les personnes que vous trouverez. » Les serviteurs s'en allèrent dans les rues et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons. Et ainsi la salle de mariage se remplit de monde pour le repas. Le roi entra pour voir les invités. Il aperçut quelqu'un qui ne portait pas de vêtements de fête. Il lui demanda, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un vêtement de fête ?» Mais l'homme ne répondit rien. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans l'obscurité du dehors. C'est là qu'il pleurera et grincera des dents. » En effet, ajouta Jésus, « Beaucoup sont invités. » Mais peu sont admis. Second traduit, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Je vous invite à la prière. Seigneur, encore une fois, nous voulons te dire merci. Merci pour cette parole. Merci pour ta parole. Merci pour le message que tu vas encore nous transmettre aujourd'hui. Encore une fois, qu'il nous touche à salut. Qu'il touche les oreilles de notre cœur. Qu'il touche notre cœur. Et que nous puissions vivre pour toi. Et voir comme toi tu vois, et pas comme nous nous voyons. Seigneur, aide-nous à voir cette lumière, cette grande lumière qui fait pâlir autour de nous tous les problèmes que nous pouvons voir et nous pouvons supporter. Merci parce que tu nous as précédés et que tu veux encore nous enseigner ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Comme vous le savez, ou vous ne le savez pas, mais je pense que vous le savez, samedi prochain est le grand jour du mariage de notre dernier fils. Évidemment, la parabole de noces était tout indiquée. Et comme je voulais aussi continuer l'épître de Jude, ça se mettait bien. Et comme aussi, pour moi, l'épître de Jude était une lettre pour notre temps, je trouvais aussi que le récit de la parabole de Jésus était aussi une parabole pour notre temps. Évidemment, la préparation d'une réception de mariage n'est pas toujours facile. Il faut penser à tout, il faut oublier personne. Vous savez, on fait des petits papiers, mettre sur les tables. Et les invitations, il faut les envoyer en temps et en heure, recevoir les réponses, qui ne vient pas. Et puis, à la table, mettre les personnes avec... celui-là, il ne faut pas le mettre parce que... Bon, hein, je vous passe tous les détails et il faut que tout soit impeccable, toujours là. Un jour qui passe, pouf, la semaine prochaine, on va se voir. Hein, dans 2 minutes, on se voit. Tout sera fini. Mais ça passe tellement vite, mais il faut tout préparer. C'est du stress, du casse-tête. Et, bon, on peut peut-être comprendre à certains moments des gens qui ne se marient pas, sans leur donner raison, bien sûr. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est beaucoup de préparation. Et puis le grand jour arrive, tout se passe bien, et plus tard, ça c'est ce qui s'est passé avec notre premier fils, notre premier mariage, dans le mariage de notre premier fils. Et plus tard, on apprend qu'il y a 2 invités mystères qui se sont servis au buffet. 2 invités qui étaient là, on ne sait pas ni de quoi. Et comment on l'a su? Ben parce qu'ils ont été découverts, parce qu'ils se sont présentés à la salle, et le patron leur dit, ben, vous connaissez? Oui, oui, on connaît, oui. Et comment vous connaissez? Ben, on s'est auto-invité. Ah bon? Donc ils venaient régulièrement, comme ça, dans une costume. Dans 300 personnes ou 200, du cas c'est de la famille de l'autre. Et voilà, ils connaissaient comme ça. Et personne n'a rien remarqué de ces invités mystères. Quoi. Ceci dit, ben, dans notre texte de la Bible, pour notre temps, il y a 2000 ans, Jésus avait déjà prévenu. Et Jude a confirmé qu'il y aurait des infiltrés qui rentreraient de force ou discrètement, mais qui sont dénoncés et déjà jugés. Et rejeté. Et si nous comparons nos 2 textes de base, nous constatons qu'on a déjà parlé des invités, des appelés, des gens qui arrivent. Dieu est miséricordieux pour tout le monde. Il veut gracier quiconque. Il invite tout le monde. Il invite l'humanité entière à un superbe festin. Le festin des noces de l'agneau. Il offre la vie éternelle à tous ceux qui acceptent par la foi son invitation. Il faut recevoir l'invitation, il faut l'accepter, évidemment. Il appelle, il aime, il garde, comme il est déjà dit dans le premier verset que nous avons étudié, à ceux qui sont appelés, qui sont aimés en Dieu, le Père, et gardés pour Jésus-Christ. Par contre, dans la parabole, les premiers invités, eux, refusent. Ils préfèrent s'occuper, ils préfèrent aller travailler. Ça ne se comprend pas. Enfin bon, bref, ils préfèrent aller gagner de l'argent plutôt que d'aller manger et être là à la fête. Et puis les deuxièmes, les seconds, ceux qui étaient dans la rue, vous avez remarqué, les bons comme les mauvais. Ça m'a frappé, ça. Maintenant, il y a peut-être à discuter encore plus, mais ce n'est pas mon sujet. Mais les bons et les mauvais, nous dit le texte, ils sont là, et la salle est pleine. Mais il y a une condition. Vous avez remarqué, il faut un habit de noces. Question. Comment un homme de la rue, un SDF, peut avoir un habit de noces? Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas eu de réponse. Et je me suis dit, bon, ben, pour ma part, je pense que la solution, c'est que le costume était fourni par la cour. Le costume était fourni par la maison du roi. Non seulement Dieu invite, mais il fournit aussi la tenue. La tenue pour être digne de faire partie de la noce. Dieu, il est complet, il fait tout. Et je m'explique. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quiconque peut accéder à la grâce de Dieu, mais il faut évidemment l'accepter. Comme Jésus disait à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau, il faut que tu changes, il faut que toutes les choses anciennes deviennent nouvelles. Des pécheurs, Nous sommes passés à sanctifier. Les vêtements du péché ont été remplacés par des habits de fête fournis par le roi. Le chrétien est une nouvelle créature. Et cela devrait se voir. Pas spécialement de l'habit extérieur, bien que, on devrait voir. Il devrait avoir une différence. Parfois, et je reconnais, on n'en a pas. Et c'est ce que dénonce Jude dans son épître, verset 4 que nous avons lu. Il s'est glissé parmi vous certains hommes, on parle de l'égalité de la femme et de l'homme, certains hommes et certaines femmes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Et si vous vous rappelez, dans ma première introduction, j'ai parlé des triades, des trois mots ou trois phrases qui est plusieurs fois répétée dans l'épître de Jude. Et si nous avons une triade, des personnes qui sont des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre Seigneur, seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Trois points. Il s'est glissé, il s'est introduit discrètement, il s'est infiltré des hommes dont le vêtement n'est pas un vêtement de noces donné par le roi. Ils sont là. Mais apparemment, ils sont subtils parce que, même dans la parabole, on ne les repère pas. Nous, on n'a pas repéré les deux invités qui avaient mangé sur notre compte. On ne les repère pas. Personne ne les voit. Les invités mystères sont là. Un seul connaît le roi. Je n'étais pas roi, j'ai invité, mais je n'étais pas moi le roi. Le roi, Dieu en personne, connaît. Et verset 4, il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Dieu connaît toutes choses. Ils sont déjà jugés et condamnés. Mais vous allez me dire, s'il sait, pourquoi il permet ? C'est lui qui gère. C'est lui qui permet. Et dans la parabole, les serviteurs n'ont même pas remarqué celui qui n'avait pas de costume. Seul le roi l'a remarqué et il a su tout de suite que c'était un imposteur. Ne nous y trompons pas. Dieu est miséricordieux. Il est grâce, il est amour, mais il est aussi justice. Un verset qui dit « On ne se moque pas de Dieu ». T'as beau arriver comme ça, faire semblant. Oui, tu vas tromper les hommes, mais pas Dieu. Mais qui sont ces hommes et ces femmes connus de Dieu? Et je reprends cette triade que nous avons lue, des personnes qui sont des impies, qui cherchent la grâce de Dieu et qui renient notre seul Maître et Seigneur. Des impies. Des impies, mots, c'est un mot régulièrement employé dans la Bible qui désigne tout ce qui s'oppose à Dieu. Le terme général décrit tout ce qui méprise la religion, quelle qu'elle soit, ou encore un athée, un profane, un sans religion. Et dans notre lettre de Jude, c'est davantage quelqu'un qui est contre Dieu, qui manque de révérence, qui dénigre tout. Pourtant, ils sont dans l'Église. Ça, c'est le danger. Ils sont dans l'Église. Ils sont là. Dans sa deuxième épître, Pierre parlera aussi du monde des impies, du temps de Noé, déjà de Sodome et Gomorrhe. C'est pas d'aujourd'hui, hein. Déjà à cette époque-là. Et comme ils étaient des exemples, des impies futurs. Hier, aujourd'hui, demain, les impies sont là. Mais le feu du jugement est là aussi. Et de nos jours, vous savez comme moi que l'impiété est de plus en plus grandissante. Et si du temps de Jude, elle était déjà dans l'Église, qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui? À combien plus forte raison, aujourd'hui, on doit être prudent et vigilant. Voilà ce que Paul disait à Timothée dans Timothée 3, 1, 5. Il écrira « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes et les femmes, égalité, seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. » Il en a mis des qualités. Des qualités de défaut, évidemment. Et ici, verset 5, ayant l'apparence de la piété. Ayant l'apparence de la piété. Mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces gens-là. Les impies infiltrés, discrètement ou un semblant de piété. On vient, on est là. Mais leurs pensées et leurs vies sont en opposition totale à la volonté de Dieu et la gloire de Dieu surtout. Et si ces personnes se contenteraient de n'être que là, moi, hein, on pourrait peut-être espérer qu'un jour ils soient touchés par la grâce de Dieu, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que la triade continue. Ces impies changent la grâce de notre Seigneur en dissolution. Second et Darby disent dissolution. La français courant, parce que j'ai pris plusieurs références de Bible différentes, parce que la traduction, il faut la sentir. Hein. Français courant dit « Ils déforment le sens de la grâce de notre Dieu pour justifier leurs actions honteuses. » Ils déforment la grâce. Pas seulement que la Bible, ils déforment la grâce. La version parole de vie, ils tordent le message d'amour de notre Dieu. Ils tordent le message d'amour de notre Dieu afin de pouvoir se conduire n'importe comment. On fait ce qu'on veut. Bon, de toute façon, Dieu l'a vraiment dit. Bon, n'importe, on fait ce qu'on veut. La traduction œcuménique dit, ils travestissent en débauche la grâce de notre Dieu. Le terme grec dissolution, débauche, est désigné par le grand Aristote qui a vécu au 4e siècle avant Jésus-Christ, ça existait déjà, de vice sans borne. Sans borne, vice sans borne. Déjà un vice, c'est déjà quelque chose, mais sans borne, sans limite. Et c'est un mot qui donne le sens de l'insolation sans frein. Pas l'insolation du soleil, hein. L'insolence sans frein. Mais oui, j'ai marqué insolence en plus. Désolé, c'était un lapsus. L'insolence sans frein, sans borne. Vous imaginez changer la grâce de Dieu en vice sans limite, en justifiant que tout est permis. Parce que le chrétien est libre de tout esclavage. Tout est permis. Et si nous relisons les lettres de Paul, et particulièrement Romains et Corinthiens, on voit que c'était pas triste à l'époque. Hein. Même dans les épîtres de Pierre et de Jean, même dans l'Apocalypse, les Nicolaïtes qui sont là, ils changent la grâce de Dieu. Comment est-ce possible? Et la traduction de la Tobe utilise le verbe « travestir » pour déformer. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des travestis. Moi, j'en ai vu de près. Ils ont une finesse dans les moindres détails. On a difficile, en les regardant bien, à dire que c'est des hommes, alors qu'ils sont travestis en femmes. La finesse, ils vont jusqu'au moindre détail. Il faut vraiment regarder pour voir que ce n'est pas une femme. Alors ces impies infiltrés qui changent la grâce de Dieu en débauche sont parfois très difficiles à détecter. Ils sont là, comme des saints. Il nous faut tout le discernement, la sagesse, la miséricorde multipliée, vous savez, la multiplication, miséricorde multipliée pour ne pas être entraîné justement dans cette pente glissante qui est parfois l'indifférence. Oh, c'est comme ça. Oh, de toute façon, ça passera. Dieu est maître, nous on n'a rien à faire. Ils vont quand même, dans le troisième point de notre triade, renier notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Ils le renient, ils sont dans l'Église et ils renient le maître et Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai déjà signalé à plusieurs reprises que le Jésus historique n'est pas remis en cause. Jésus a bien existé. Il est bien bon, je crois. Ça, on ne disconvient pas. Mais la question du sacrifice, la question de la résurrection corporelle, la montée au ciel de Jésus, tout ça est controversé, même par des théologiens de renom, et même des chrétiens de renom, il ne faut pas être théologien, mais parfois, des chrétiens de renom disant que oh, les textes étaient écrits avec des images, on a donné un message, et puis on a mis des images autour, et des métaphores autour, pour faire passer, quoi. comme si on allait vous donner un peu d'eau pour faire passer la pilule, quoi. C'est bien fait. Il déforme la grâce. Et dit Jésus, ben c'est un beau discoureur, hein. Il a bien parlé, lui. Hein. Ben, il est mort et on a caché le corps comme ça. Inventé qu'il était. Il nie ces gens-là, la vérité, reniant le maître qui les a rachetés. C'est ainsi que la deuxième épître de Pierre lance son avertissement. Il renie le maître. Et je lis 2 Pierre 2. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, leur débauche, et la voix de la vérité, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Ils sont là, infiltrés, et la voix de la vérité sera calomniée. Jude, quand il dit « Seigneur et maître, ne fait pas deux choses différentes », il ne dit pas « Jésus est maître et Jésus est Seigneur ». Dans le grec, on relie toujours, c'est une seule pensée, « Jésus est maître et Seigneur ». La construction de la phrase en grec ne parle que d'une seule personne, il n'y a pas deux personnes. Jésus-Christ est maître et Seigneur, il est Dieu. Et je pense que tout qui renie la divinité de Jésus, je pense, c'est peut-être un jugement de ma part, n'est pas digne de faire partie de l'Église. Hélas. Ils sont là. Il manquera toujours quelque chose dans leur dire. Il manquera toujours quelque chose dans ce qu'ils affirmeront de la grâce, de l'amour de Jésus-Christ, de l'amour de Dieu. Pourtant, ces gens sont dans l'Église. Qu'est-ce qu'on fait ? Les repérer. Parce qu'ils sont... Les expulser, les renier, les brûler comme au Moyen-Âge. S'il vous plaît, on ne peut pas, nous, être juges. On ne peut pas être des exécuteurs de Dieu. On ne peut pas se mettre à la place de Dieu, être la vengeance. On ne peut pas être des bourreaux nous-mêmes. Ils sont là. Et je vais laisser parler Jésus. Comme mon frère Guy dit, je veux bien laisser parler Jésus à ma place. Et Jésus, voilà ce qu'il dit en Matthieu 13, verset 24. Jésus leur raconta une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à quelqu'un qui avait semé de la bonne semence dans son champ. Une nuit, pendant que tout le monde dormait, son ennemi vint semer de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe poussa et que les épis se formèrent, la mauvaise herbe aussi apparut. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Maître, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc cette mauvaise herbe ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs leur dirent « Veux-tu que nous allions enlever la mauvaise herbe ?» Les expulser, les brûler. « Non, répondit-il, car en l'enlevant, vous risquerez d'arracher aussi le blé. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson, et à ce moment-là, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en bottes pour la brûler. Et puis vous rentrerez le blé dans mon grenier. La parabole de l'ivraie, dans une autre version. Comme Jules le dit, ces hommes et ces femmes sont déjà jugés par Dieu. Il sait qu'ils sont là. Nous, on ne le sait peut-être pas, on ne les voit pas. Mais il sait qu'ils sont là. Nous, on n'a pas le droit ni la capacité de les écarter. Sans faire de dégâts peut-être pour les autres, peut-être pour les personnes plus faibles. On dit, ah, toi, non, dehors, et puis ça choque. Et puis parfois l'Église éclate. Il y a des églises qui ont fait ce genre de choses. Et l'Église a éclaté. Et tout comme dans la parabole de noces, c'est le roi lui-même qui fait le tri. Le tri des invités entre ceux qui sont vêtus, qui portent un habit de noces, et celui qui ne l'est pas. Mais le jugement est sans appel pour Dieu. La condamnation éternel. Ça fait peur quand même. Je dis, mais Seigneur, est-ce possible ? On a le choix. Et je me souviens d'une histoire que je racontais dans les camps et qui me revient comme ça. C'est un homme qui est dans le désert et il a soif et il avance dans le désert, il a soif. Et puis il y a un monsieur qui vient et voit de loin, un monsieur avec deux valises comme ça et dit, qu'est-ce qu'il y a à boire, Je dis, non, moi j'ai que des cravates. Tu veux acheter une cravate ? Je dis, non, pas de cravate, j'ai soif moi. Il avance, et puis il voit un deuxième,
Oh non, j'ai des cravates. Je veux une cravate. Mais je n'ai pas de cravate, je veux un bois. Et puis il arrive une ville énorme avec de l'or et de ci et de là. Et un monsieur à l'entrée de la porte, il dit à boire, où que vous devez avoir. Vous avez une cravate. C'est un peu ça. C'est un peu ça. On est déjà jugé. Et jusqu'ici, comme je vous l'ai dit, on a partagé jusque le verset 1, 2 et 4 de l'épître de Jude. Alors, qu'est-ce que nous dit le verset 3? Et je terminerai par cela. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre. Vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Jude, lettre pour notre temps, nous exhorte à combattre pour la foi. Mais pas n'importe laquelle. Cette foi qui a été transmise une seule fois pour toutes aux saints. Et quand tu parles des saints, c'est pas les saints du calendrier, c'est pas ceux qui ont été canonisés, non. Non, non, il parle des sanctifiés. Les sanctifiés en Jésus-Christ. Ceux qui ont été appelés, aimés et gardés. Non. Il parle réellement de ces gens qui sont sanctifiés. C'est-à-dire, vous, moi, ceux qui sont devant Dieu, qui ont été sauvés, lavés, purifiés et rendus saints. C'est bien qu'on n'est pas des saints, mais devant Dieu, par Jésus-Christ, on est sanctifiés. Nous sommes saints. Nous, si du moins nous avons accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, cette cravate, si je peux dire, qui nous offre le pont. Et que nous vivions évidemment en témoignage de pécheurs rachetés graciés. C'est bien hein, de dire on est chrétien. J'ai combattu le bon combat de la foi, dira Paul à la fin de sa vie. Et Jude a changé son partage sur le salut commun en exhortation à combattre. Il devait parler du salut commun. Cette lettre, oh, et puis, non. Il parle du combat de la foi qui a été donné une fois pour toutes. Nous sentons dans cette lettre une urgence. Il y a 2000 ans, c'était déjà l'urgence. Une urgence à lancer des alertes. Allez debout, debout, réveillez-vous. Et quand on lit la parabole de l'ivraie, si l'ennemi a pu semer cette semence mauvaise, c'est parce que les serviteurs dormaient. Les infiltrés mielleux qui se sont introduits dans l'Église, ces théologies du dernier siècle semées et qui poussent en même temps. Les serviteurs se sont endormis. Je me souviens d'un cours à la faculté où le prof disait « Mais vous savez comment tel et tel sont arrivés dans notre pays ?» L'Église n'a pas fait son travail. L'Église dormait. Alors oui, oui. Tout a poussé en même temps. On n'est pas dans un hôtel 5 étoiles, en all-in, où tout est compris. Non, il faut combattre. Je viens dimanche matin, et puis la semaine, je me repose. On n'est pas dans un film d'action où on ne fait rien. On n'est pas simple figurant. On est acteur. On est en guerre. On est en guerre contre cet impie qui va arriver aussi. L'impie avec un grand I. Vous verrez ça dans la Bible, quand il parle de l'impie, c'est réellement Satan, cet impie qui va arriver. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations qui sont là aussi, dans les lieux célestes. Notre combat est un combat par la foi, pour la foi. Alors, exhortons-nous à combattre. Et vraiment, en grec, ce mot est un mot d'athlétisme qu'on pourrait traduire par se tourmenter à propos d'eux. Il faut que ça nous prenne aux tripes. Et je me rappelle un peu les images qu'on avait à la télévision du Tour de France. Oui, ils arrivaient que la ligne d'arrivée était en haut de la côte. Il faut donner un effort. On est dans le sprint. On est dans la dernière course. On est dans les dernières heures. Les derniers temps sont là. On doit combattre. On doit se lever, on doit prier, on doit combattre.
Le chrétien n'est pas évidemment appelé à enfourcher un vélo, ni à répondre au plus grand quiz. Oh, moi, je connais toute la Bible. Une fois, je voyais sur Internet, elle dit, ça fait 40 ans que j'étudie la Bible. Et il y avait une phrase qui était à côté de la plaque, j'étais prêt à marquer, ouais, mais tu n'as rien compris de la sagesse. Je me suis abstenu parce que je dis, qui suis-je? Nous sommes peut-être la dernière génération. La dernière génération avant le retour de notre Seigneur, alors que nous puissions être à la hauteur de sa dignité et de sa divinité. Et quand je l'ai dit, de nouveau, j'avais prévu de partager jusqu'au 7e verset, je me suis arrêté au 4e, la suite à la prochaine édition. Vous êtes prié de revenir si ça vous intéresse. Alors je terminerai comme la dernière fois avec un petit ajout. Alors à vous qui êtes appelés, aimés et gardés, que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés dans le nom de Jésus-Christ et pour la gloire de Dieu. Combattez le beau combat de la foi. Amen. Amen. Seigneur, encore une fois, nous voulons nous mettre devant toi parce que c'est toi qui nous as tout donné. Tu nous as donné toute cette lumière pour avancer. Mais Seigneur, nous voulons peut-être nous lever ou nous relever, nous reprendre en main pour le combat de la foi. Le bon combat. Pas n'importe lequel, mais ton combat. Seigneur, merci parce que tu nous devances, tu nous as donné toutes les armes pour combattre, pour tenir debout. Seigneur, aide-nous à voir vraiment comme toi tu vois. Même si nous ne voyons pas tous ces infiltrés, nous voulons te faire confiance. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à être des témoins fidèles et à garder justement encore ce manteau qui nous donne d'entrer à la noce. Seigneur, merci parce que tu es notre salut. Encore une fois, mets en nous ton esprit pour ce combat de la foi. Au nom de Jésus. Amen.